société,
environnement,
culture, spectacle,
politique,
économie,
patrimoine,
agriculture,
vie locale.
L'interview du jour sur Radio Transparence.
Les élections européennes du 9 juin prochain sur l'antenne de Radio Transparence avec une réunion publique et une liste avec un Ariégeois dedans. C'est celle menée par la France Insoumise, je crois qu'on dit Union Populaire.
Oui, Union Populaire.
Si je ne m'abuse, l'Ariégeois en question c'est Michel Larive, ancien député. Bonjour Michel Larive.
Bonjour.
Et la réunion publique, elle a lieu ce samedi 12 avril.
Oui, mais on va même dire que c'est un vendredi.
C'est un vendredi, 12 avril, c'est parce que j'ai pas reçu l'info. Vendredi 12 avril, à partir de 19h, à la salle Jean Jaurès de la mairie de Foix. Bonjour Michel Larive.
Bonjour Hugues.
Réunion publique donc avec deux députés, Mathilde Igné et Christophe Bex, deux députés France Insoumise, pour vous accompagner, vous qui êtes sur la liste à une place éminemment non éligible, hein, puisque vous êtes juste devant Jean-Luc Mélenchon.
C'est la place des vieux sages.
Oui, donc une candidature pour y être, parce que ça doit être important
oui,
pour vous d'y être.
Oui, bien sûr, voilà, oui. On m'a demandé de porter soutien, donc j'ai dit oui, ben voilà, ouais.
Et une campagne des européennes dont on ne cesse de dire, et tellement on le dit, ça va finir par être vrai, qu'elle a du mal à intéresser les gens. Pourquoi, d'après vous, on n'arrive toujours pas, après la crise du Covid où on dit que l'Europe a joué un grand rôle, après la crise ukrainienne où on voit la tentative de donner corps à une Europe politique, militaire et j'en passe. Pourquoi à ces moments-là où l'Europe semble être si près de nous, on n'arrive toujours pas à s'intéresser à ces élections ?
Deux choses. La première, c'est que c'est chaque fois 3 semaines, voire 1 mois grand maximum avant l'échéance du scrutin, que les gens se préoccupent d'une élection qui va avoir lieu, européenne en l'occurrence. Hein. Donc les choses vont se décanter 3 semaines, 1 mois avant. Et la deuxième chose, c'est que, pas vous, mais... les médias, les grands médias nationaux sont surtout sur les discours de forme et pas sur le fond. Parce que tout ce que vous venez de dire est tout à fait exact. C'est très important de parler de l'actualité internationale parce qu'elle nous impacte. Et toutes les directives européennes impactent les citoyennes et les citoyens ariégeoises et ariégeois.
À tel point, Michel Larive, que votre expérience de député vous a montré que beaucoup de temps, hors les grandes lois qui font parler, que l'on passe à l'Assemblée nationale, c'est du temps de transposition de mesures européennes dans le droit national.
Tout à fait. C'est de transposition ou de surtransposition dans le cas de l'équipe macroniste. C'est-à-dire que... et puis même dans le cas du PS de François Hollande. Mmh. Et donc, la transposition, c'est de transposer des directives européennes dans les droits nationaux différents, en l'occurrence à l'Assemblée nationale dans le droit français. Et la surtransposition, c'est d'aller plus loin que ce que demande l'Europe, en termes notamment de privatisation et autres, ce que font allègrement les gouvernements libéraux... bon, alors Sarkozy, bien sûr, Hollande et Macron.
Oui. Aujourd'hui, pour vous, l'Europe, Michel Larive, à la France Insoumise, c'est quoi cette Union européenne ? Qu'est-ce qu'elle représente ?
C'est une chose très, très importante. En plus, dans ces temps mouvementés, dans ces temps où le bruit de bottes apparaît à nouveau en Europe, à l'est de l'Europe, c'est quelque chose qu'il faut rappeler à nos citoyennes et nos citoyens. Cette Europe, elle a été fondée pour sauvegarder la paix en Europe. Après 2 conflits dramatiques mondiaux, 2 guerres mondiales, enfin, de grands hommes européens ont fondé une espèce de coalition avec des cultures différentes, mais qui avait pour objectif de maintenir une discussion et surtout un espace de paix. Et elle s'est agrandie. Et c'était ça, le projet fondateur. Hein. Et ensuite, ça a été... tout de suite un projet économique et qui devait quand même s'étendre sur d'autres projets, c'est-à-dire un projet de société. Et dans les projets de société, on entend le social et l'écologie, par exemple, mais qui sont les grands absents, effectivement, de la politique européenne actuelle, qui n'est qu'un grand marché à l'heure actuelle. Et on voit d'ailleurs que ce grand marché se libéralise de plus en plus, puisque c'est quand même l'Allemagne qui dirige un petit peu cette politique européenne et son modèle ordo-libéral qui fait qu'on libéralise tout. Je parle par exemple du dumping social à l'intérieur de l'Europe, du problème des travailleurs détachés que nous supprimerions si nous étions à la tête de cette Europe, parce que c'est une concurrence déloyale. Je parle de la PAC qui est une affaire qui ne fait qu'enrichir ceux qui sont déjà riches. Donc voilà, donc vous voyez, c'est
ça, c'est pas la faute de l'Europe, ça c'est la façon dont la France
Ah non, c'est d'abord oui, alors vous avez
Partiellement raison,
voilà. Allez. C'est-à-dire que ce sont les chefs d'État hein, qui négocient l'enveloppe, les enveloppes, les choses comme ça. Et après, la redistribution, vous avez raison, la nation a quelque chose à dire là-dedans. Ici, en France, eh bien, voilà, on distribue à l'hectare. Et c'est tout à fait dommage, parce que l'Europe impacte véritablement la vie des agriculteurs ariégeois. Dans certains endroits, moi j'ai discuté avec des agriculteurs dernièrement, d'ailleurs, lors des conflits, ils m'ont appelé parce qu'ils ne savaient pas trop vers qui se tourner ici en Ariège. Et donc, ils se sont souvenus qu'ils avaient un député qui était à l'époque sur le terrain. Et ils m'ont appelé pour dire « qu'est-ce que tu en penses ?» et tout. Voilà. Donc, quand je les écoute, ils me disent « nous, le principal problème, nous, ici en Ariège, comme beaucoup de petits agriculteurs, c'est le revenu. C'est ce qu'ils rentrent dans, c'est ce qu'ils ont pour vivre. C'est ça, le principal problème. Ce n'est pas forcément les régulations européennes. Le droit à polluer, c'est ce que demandent les gros patrons de la FNSEA, pas les petits, hein. Les petits, eux, ils demandent juste un revenu.
Mais les petits, ils étaient quand même sur les ronds-points avec ces revendications-là.
Non, ils étaient avec les revendications d'abord du revenu. Parce qu'après, sur les directives européennes, si vous posiez la question véritablement, quelles directives...
Ah bah je l'ai fait, hein. Moi, on m'a beaucoup parlé des normes, on m'a beaucoup parlé...
Et lesquelles
Les normes, bah, alors,
lesquelles, voyons.
Il y avait les haies. Il y avait aussi l'interdiction du glyphosate qui posait souci parce qu'on ne pourra plus cultiver sans glyphosate.
Alors,
il y avait tout ça, c'était sur les barrages.
Pensez-vous,
Michel Larive,
oui, d'accord, bien sûr. Pensez-vous qu'en montagne, ils utilisent beaucoup le glyphosate?
Non.
Bon, voilà. Vous avez répondu. C'est-à-dire qu'en Ariège, le glyphosate, il concerne effectivement des céréaliers, peut-être de la basse Ariège, mais à partir de Saint-Girons et au-dessus.
Ou de la polyculture de coteaux, ou voilà.
Oui, enfin, peut-être.
Pas,
peut-être.
Pas des gens très très riches. Oui, hein, oui.
Non, non, mais c'est pas ça le problème. C'est l'utilisation qui. Je veux dire, le glyphosate, il est fait pour. Non. Pour ce qui est. C'est un produit d'amendement. Dont les petits agriculteurs n'ont pas forcément besoin. Ceux qui sont en élevage n'ont pas besoin de glyphosate. Sur une petite espace même de culture de maïs ou autre, il n'y a pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Ils ont d'autres façons de faire ou autres. Et voilà. Et puis, dans les grandes exploitations, effectivement, il y a le glyphosate. Alors, on nous dit, oui, mais on n'a rien pour le remplacer. Bien sûr que si, qu'on a des choses pour le remplacer. Nous avons des choses, même des choses qui sont sous la même forme physique, le produit glyphosate, et qui sont des choses bio, et qui existent, et qui peuvent être aussi épandues, qui sont aujourd'hui un peu plus chères, effectivement, que le glyphosate, mais dont la commercialisation et dont la promotion n'est pas faite.
Ouais. Sur, donc, sur voilà. Cette question-là, Michel Larive, l'Europe
c'est...
a...
En arrière, c'est un épiphénomène, quand même. Hein.
L'Europe semble tendre vers une interdiction de
non, pas du
de,
tout.
Cas,
bon, pas du tout,
cas,
hein, non, regardez.
Sur ces produits-là, et la France... visiblement, a fait un grand pas de recul, là.
La France devait normalement se prononcer pour une espèce de moratoire ou quelque chose de semblable, et vient de dire « non, non, ok, on repart pour tant d'années ». Non, 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 c'est une trahison d'Emmanuel Macron de sa parole de 2017, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. En 2017, le gouvernement nous avait dit à l'Assemblée nationale qu'ils autorisaient le glyphosate pour 3 ans.
Ouais.
Et donc ça fait maintenant 7 ans. Donc non, c'est une trahison et la France a voté dans le sens de la continuité hein, du glyphosate.
Pour parler de nos agricultrices, nos agriculteurs, Michel Larive, l'Europe, c'est aussi les traités de libre-échange.
Exact.
Voilà, ça a beaucoup été...
Bien sûr. Ça, par contre, oui.
Annoncé, ça a beaucoup été évoqué sur les barrages et normalement tout le fait, traité ouais. Avec l'Amérique du Sud, je ne sais plus, l'Amérique
oui,
du Sud.
Oui, il y a le Mercosur voilà, peut-être,
et
il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y a des spécifiques avec le Chili, avec le Canada. Avec,
contre lequel la France s'est battue justement, même contre l'Europe. Parce qu'en Europe, on voulait signer le traité.
Écoutez, je ne crois pas que vous n'aviez peut-être pas les bonnes informations. Tous les groupes au Parlement européen ont voté au minimum une fois pour Les traités de libre-échange.
On a les mêmes informations.
Sauf la France insoumise qui n'a voté aucun de ces traités à Bruxelles. Tous les autres, oui. Et ceux qui le votent le plus souvent, bien entendu, c'est le groupe de Madame Valérie Ayer. Donc effectivement, eux, c'est leur proposition libérale. Je comprends. Hein, c'est leur proposition libérale. Mais il faut savoir que le Front National le vote aussi. Et puis après, sur le prix plancher, ils votent contre, ils votent pour, ils votent contre. Le Front National ne sait pas trop où ils sont là-dessus. Sur la ruralité, le Front National, il vote contre les espaces ruraux. Il y avait eux qui se présentaient se proclamaient comme défenseurs de la France rurale. Et pendant l'élaboration de la nouvelle PAC, en octobre 2020, le FN a introduit plusieurs amendements visant, écoutez bien, à réduire le budget pour le développement rural et à supprimer la mention sur les problèmes structurels de zones rurales de l'Union européenne. Ça, c'est le vote du Front National. Alors après, qu'ils viennent racoler en ruralité, il faudra quand même leur rappeler ça, quoi. Mmh. Et donc, là-dessus, on est très très clair. Regardez les votes de Manon Aubry et de son groupe. On a voté contre tous les traités de libre-échange. Et là, le dernier, ils ont encore voté pour, on a encore voté contre.
Oui. L'Europe, c'est aussi des directives, Michel Larive, et notamment concernant l'énergie, on a beaucoup parlé directive qui devait, on n'a pas très bien compris d'ailleurs, décorréler le prix de l'électricité à celui des hydrocarbures. En France, pays nucléaire, on aimerait bien parce que ça pourrait, nous dit-on, faire baisser les prix. Donc visiblement, on a obtenu ça, sans vraiment l'obtenir, puisque pour le moment, on a tous nos factures d'électricité. Pas grand-chose n'a changé. Hein.
Oui, là, vous voyez, par exemple, le prix de l'électricité, c'est plus 45% dans les deux dernières années et plus 100% depuis que libéralisé. Pardon. Voilà, l'idée, c'est de sortir l'électricité du marché européen. On a en plus, nous, une position éminente sur ce secteur.
Grâce au nucléaire
Parce qu'il y a le nucléaire, effectivement. Mmh. Et là, aujourd'hui, nous avons une position qui fait qu'on vend, par rapport à ce marché-là, ailleurs à perte et chez nous très cher. Donc le vrai coût de la production d'électricité, elle n'a pas varié depuis 10 ans. Par contre, les factures, elles flambent. Et ça, c'est dû au marché, en fait. On est dans une spéculation. Quand l'électricité est indicée sur le prix du gaz, vous regardez, les conflits divers font monter le prix des hydrocarbures. Et puis, les hydrocarbures, quand les choses vont mieux que le baril, le Dow Jones fait baisser le baril, et qu'à Londres, le baril de pétrole baisse aussi, eh bien, à la pompe à essence, ça ne baisse pas ou très peu, 10 centimes. Quand il y a une baisse de 50%, des fois ça s'est vu, là, eh bien, on a eu 10 centimes de baisse grand maximum, et après, c'est tout à la hausse. Donc, en fait, on est dans un effet de spéculation sur les événements mondiaux. C'est pour ça que c'est important, la politique internationale. Et là, on a des super profits qui sont faits par les pétroliers, et l'électricité étant couplée au prix du gaz, et ben, ouais, c'est l'effet boule de neige. Mmh. Donc l'idée, c'est de sortir de ce marché. Et si on avait un pôle public, par exemple, de l'énergie, on rétablirait ce qu'il y avait avant, des tarifs réglementés qui correspondent au coût de production et non à la spéculation des marchés. Ouais. Ça, ce serait plutôt intéressant pour l'usager.
Ouais. Mais ça, l'Europe ne le permet pas.
Eh bien non, parce que vu que l'Europe est dans le fait de casser les services publics, avec le premier dogme qui était la concurrence libre non faussée, et là maintenant le nouveau dogme qui est celui du chantage à la dette, eh bien à partir de ce moment-là, l'idée, c'est de casser les services publics. Et donc, l'électricité, vous en avez parlé, est un service public qui est en train d'être complètement démembré en France, et notamment en ce qui concerne l'Ariège, les barrages hydroélectriques qui vont être privatisés. Et là, c'est très grave, parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'énergie. Effectivement, il va y avoir un impact sur le coût de la facture que va recevoir chaque usager. Mais derrière, c'est l'eau, quoi. Quand il va y avoir un problème de déficit hydrique dans la plaine de l'Ariège. Avant, le préfet appelait EDF en disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, effectuer un lâcher ou deux, essayer de remplir un petit peu les cours d'eau. »
Faire un soutien à l'étrage.
Voilà, un étiage, essayer de faire un étiage. Et lorsque ce sera privatisé, eh bien là, l'opérateur privé dira oui, peut-être, c'est temps. Voilà. Donc, vous allez recevoir quelque chose de plus sur la facture, parce que le dernier qui va payer ça, c'est vous. D'accord? Donc ça, c'est ça la privatisation. La privatisation, c'est toujours plus cher que le public, hein. C'est l'inverse de ce qu'on pense. C'est-à-dire que déjà, sur la privatisation, quand on est dans une concurrence, une pseudo-concurrence, on fixe les prix. Et ensuite, on va chercher les services. Dans le service public, tous les services sont compris. Là, vous aurez un service, par exemple, de lâcher d'eau, qui n'existe pas encore, ou quelque chose de... Vous avez des lignes risques ou des choses comme ça, mais sur le lâcher d'eau, ça n'existe pas. Veolia ou Vinci, je ne sais pas qui est-ce qui prendra les barrages en Ariège et ailleurs, ils en ont déjà pris d'ailleurs. Eh bien, lui, eux vont vous faire payer ce risque de lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, au niveau sécurité, excusez-moi, mais dans le service public, surtout sur des barrages ou, a fortiori, sur le nucléaire ou quoi, je préfère que ce soit dans le giron du service public, parce que les gens savent faire, et ils n'ont pas d'obligation de rentabilité. Alors que dans le privé, quand il y aura une obligation de rentabilité, la sécurité, c'est le premier secteur qui va pallier de cette rentabilité.
Michel Larive, ancienne députée France Insoumise de l'Ariège, est aujourd'hui notre invité pour parler des élections européennes du 9 juin prochain, donc pour lesquelles vous êtes sur la liste menée par Manon Aubry à une place non éligible. Mais vous êtes là et vous le faites, on le voit bien, avec plaisir.
Oui, grand plaisir.
Le job, comme on dit, et notamment pour annoncer cette réunion publique de ce vendredi 19h, salle Jean Jaurès de la mairie de Foix. Michel Larive, des élections compliquées, on le voit, pour la gauche, pour la France insoumise, pour une gauche qui part désunie, hein, on va le dire comme ça, liste communiste, liste socialiste avec Raphaël Glucksmann, liste écologiste, liste France insoumise, et des voix qui se perdent. Et en même temps, on va pas refaire le coup des gauches irréconciliables, c'est pas mon rôle, mais on a l'impression que quand même le fossé se creuse un peu.
Écoutez, là où vous avez raison...
Surtout quand on parle d'Europe d'ailleurs.
Ouais, là où vous avez raison, c'est sur la sensibilité que peut avoir le citoyen et donc l'électeur sur ce qui se passe dans le paysage politique français. C'est indéniable. Moi, j'ai pas envie de faire de la langue de bois, mais je veux juste vous faire remarquer que sur notre liste, quand même, il y a un eurodéputé EELV qui est aujourd'hui encore eurodéputé dans le groupe Europe Écologie et qui demain sera député dans le groupe La France Insoumise. C'est Damien Carême, il y a Arash Chassidi qui est ex-coordonnateur de Génération, ouais, qui est sur la liste.
Ça, il y a Camille Lachaise. Hein, il y en a toujours eu,
non, mais,
ça s'est toujours
oui, mais
fait.
Enfin, voilà.
C'est pas
pour
des
ça
accords,
que la liste,
Michel Larive, ça.
La liste s'appelle Union Populaire. Non, c'est pas des accords, ça s'appelle Union Populaire. C'est-à-dire que ça vient pas des appareils de parti, ça vient des gens plutôt. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis des gens qui se retrouvent, parce que Carême, il était quand même élu, il était en bonne position, s'il se retrouve sur notre liste, c'est qu'il a fait un choix politique aussi. Donc qu'il a ressenti que même au niveau écologique, notre proposition tenait la route. Ouais. Et je ne dis pas que celle des Verts ne tient pas la route, pas du tout, mais il a préféré celle-là. Moi. Voilà, moi, je ne comptais pas sur moi pour taper ni sur les Verts, ni sur les communistes, ni sur les socialistes. Parce que comme vous l'avez dit, je trouve que c'est tellement idiot que j'ai pas envie de participer à cette imbécilité.
Ouais. Mais même si tous, ou presque tous, sont très critiques avec la France insoumise, et là on parle d'Europe, on parle d'international, sur les positions internationales, notamment vis-à-vis de la guerre en Ukraine. La position de Manon Aubry, de cette liste d'Union populaire sur les livraisons d'armes, sur le soutien militaire à l'Ukraine aujourd'hui, c'est quoi, Michel Larive?
Alors,
parce que ça inquiète du monde, hein, ça.
Oui, mais,
hein, vous
mais,
le savez.
On comprend très très bien. Là, c'est quelque chose... Je veux d'abord dire que dès la première heure de l'invasion russe en Ukraine, nous avons condamné l'attaque de Poutine sur le sol ukrainien. Nous l'avons condamné dès les premières heures. Ça, c'est un fait. Ensuite, la recherche de la paix. Pourquoi ? Parce que Jaurès disait « on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». Il avait raison, il l'a payé de sa vie. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée, c'est la recherche de la paix. Mais maintenant, ce que nous disons, c'est qu'effectivement, il y a un agresseur qui est nommé, Vladimir Poutine et l'armée russe, contre un peuple souverain, l'Ukraine et son peuple. D'accord ? Donc ça, c'est un fait. Maintenant, il y a une guerre. Nous ne sommes pas du côté de l'agresseur, nous sommes en soutien, profondément en soutien à l'Ukraine, soutien humanitaire, soutien logistique, soutien financier. Mais à un moment donné, il faudra sortir de ceci. L'horizon, c'est pas la guerre, l'horizon, c'est la paix. Alors, il faudra à un moment donné avoir des discussions pour envisager une paix, pas à n'importe quel prix, sur les bases du droit international, bien entendu. C'est-à-dire que nous n'accepterons pas de dire, effectivement, la Crimée est russe, puisque le droit international dit la Crimée est ukrainienne. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, après... Il faut entamer des pourparlers.
Mais on voit bien
qu'avec, faut à un moment donné songer à une sortie de crise.
On voit bien qu'avec la Russie de Poutine, ça ne passera que par le rapport de force. Et le rapport de force, il pourra s'équilibrer que si l'Ukraine peut se défendre.
Oui, d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, les premiers qui bloquent l'aide militaire à l'Ukraine, ce sont quand même les Américains qui ont, depuis plus de 3 mois, 60 milliards
de bloqués, oui.
De dollars. Mais... Attendez, de bloqués, et c'est 60 milliards de dollars. Attention, c'est pas une aide à l'Ukraine. En fait, c'est une aide à l'industrie militaire américaine pour envoyer du matériel américain en Ukraine.
Voire même peut-être le vendre.
Voire même le vendre. Donc,
mais Michel Larive, là, c'est les élections européennes, c'est pas les élections américaines. L'Europe, elle essaie de s'organiser pour. Vous l'avez vu, même en France, on essaye de mettre en ordre de bataille l'industrie militaire.
Justement, c'est une affaire sensible. Au niveau des champs de bataille, ce qui se discute au niveau des champs de bataille entre ministres de la Défense, entre chefs d'état-major des armées, des choses comme ça, regarde les chefs d'état-major des armées, regarde les présidents de la République, regarde ceux qui sont les patrons des armées. Et là-dessus, nous faisons confiance, effectivement, aux gens qui sont installés aujourd'hui. Et si on nous demande notre position, nous sommes derrière l'Ukraine qui est l'agressée.
Si on vote un budget pour alimenter une aide militaire à l'Ukraine, la France insoumise vote pour.
Ça, c'est pas. Moi, j'y serai pas. On verra ce qu'ils feront. J'y serai pas.
J'imagine. On verra
ce qu'ils feront.
Quand même.
Écoutez, on verra ce qu'ils feront. Moi, j'y serai pas. Donc, en tout cas, vous connaissez notre position. Vous connaissez notre position. C'est celle de dire il faut, de toute manière, in fine, envisager une paix. Alors, si les gens disent, écoutez, il faut faire la guerre jusqu'au bout, ça veut dire des dizaines et des dizaines de milliers de morts militaires et civils en plus pour aboutir à, in fine, une paix. Dans quelle catastrophe ? Alors, une paix sur un champ de ruines, vous savez, on aurait eu ces pourparlers là le plus tôt possible, il n'y aurait pas eu de questions sur l'annexion du Donbass et d'autres. On serait parti sur les frontières réelles, on serait parti sur la Crimée ukrainienne, et c'est là-dessus, si jamais il y avait des négociations très très vite après le début du conflit, on serait parti sur ces bases-là.
Mais des négociations avec Vladimir Poutine, vous savez, les Syriens, et on se souvient que Jean-Luc Mélenchon a eu des propos quand même malheureux au début de la guerre en Syrie.
Sur
l'intervention russe.
Dites-moi, parce que c'est ça aussi. C'est, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit que les Russes et les Russes, quand les rebelles syriens avaient besoin de carburant, quand les carburants passaient, traversaient la frontière syrienne, ce qu'arrivaient pas à faire les Américains ou les Alliés, les Russes avaient réussi à le faire.
Russes,
c'est tout ce qu'il a dit.
Ils ont bombardé ensuite des corridors humanitaires. Mais
d'accord,
tout
à fait.
On ne peut pas discuter avec des
donc,
gens qui font ça. Michel Larive,
Attendez. Je reviens sur Jean-Luc Mélenchon. C'est tout ce qu'il a dit. Le reste, il l'a condamné. Les bombardements sur les corridors humanitaires, il l'a condamné. Toutes les actions de la Russie en Syrie sont condamnables. Et nous les condamnons. Et
parce que c'est bien de le dire.
Voilà. Et nous les condamnons. Voilà. Écoutez, vous savez, nos amis en Russie, ils sont emprisonnés. Ils sont pas dehors. Ok, d'accord. Les gens du front de gauche en Russie, ils sont en prison, ils sont pas dehors. Par contre, ceux qui sont dehors sont des amis, des gens qui sont effectivement des grands partis en France. Alors, plutôt que de jeter la pierre à la France insoumise, vous devriez regarder un petit peu tout autour.
Michel Larive, merci beaucoup. Mais c'est important quand même de clarifier
complètement,
un petit peu.
Complètement. Ça va être un discours de paix ici pour l'Ukraine, et ce sera la même chose pour le Moyen-Orient. Pour le Moyen-Orient, nous avons un discours de paix aussi. Le 7 octobre, c'est une attaque terroriste du Hamas, à laquelle Israël a répondu par une autre attaque terroriste. Nous demandons la libération de tous les otages que retient le Hamas, tous les otages israéliens. Nous le demandons. Mais nous demandons à ce qu'Israël arrête ses attaques dans la bande de Gaza, où tous les pays du monde, USA compris maintenant, semblent se tourner vers une affaire qui ressemble à un génocide. Voilà ce que nous demandons. Et nous demandons un cessez-le-feu, et nous demandons des accords de paix durables. Le respect du droit international de deux États, un Palestinien, un Israélien, dans cette région du monde. C'est simple, on demande ce que le monde entier demande.
Michel Larive, pour la France Insoumise, juste un petit mot pour terminer sur le paysage politique européen quand même. Un paysage qui commence à faire un peu peur. Récemment, j'ai eu votre concurrente ariégeoise pour le soutien à la liste Renaissance, qui note hein, qu'on a une droite radicale, une droite extrême, une droite nationale, on l'appellera oui. comme on a envie de l'appeler. Visiblement, elle sait bien s'entendre entre elles quand il s'agit de faire des alliances, qui est en train de prendre une force politique inédite.
Et vous avez tout à
depuis
fait raison.
La Deuxième Guerre mondiale.
J'ai vu des sondages à 32%.
Ces élections pourraient nous faire... comment dire ça ? Ces élections pourraient nous faire peur, Michel Larive. Ah, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore bien vu...
Je crois que vous avez raison. Et ce matin, j'étais chez un de vos confrères, en interview aussi, et il me disait un petit peu la même chose. Il me disait, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il y a deux choses. C'est l'intérêt que les citoyennes et les citoyens ont pour les élections, qui est très minime. Et alors, en plus, les élections européennes. Alors, il y a le fait aussi que l'État ne fait aucune campagne citoyenne d'instruction civique ou de motivation civique pour aller voter, aucune. Et puis, il y a une autre chose aussi, peut-être pas vous, mais les grands médias...
L'extrême droite va voter. Hein.
Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça qu'il faut aller voter, parce que l'extrême droite va aller voter. Par contre, il y a aussi une autre chose, c'est ce que les grands médias, pas vous, mais les grands médias mainstream, parlent sur la forme. Sur la forme et jamais sur le fond. Vous venez, vous, de soulever des questions de fond fondamentales, mais c'est rare. Après, on parle de la forme. On va dire, machin a dit ça le 23 juin 1900, machin. Voilà. Alors qu'il faut parler de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est notre position tout à fait claire aujourd'hui ? Nous, nous sommes pour un protectionnisme solidaire. Demandez à la liste de Macron, à la liste Renaissance, s'ils sont pour ce protectionnisme solidaire, c'est-à-dire que, on revient aux agriculteurs, chaque pays qui rentre en France doit avoir les mêmes normes que ceux qui sont vendus par les agriculteurs français. C'est-à-dire que si nous, on interdisait le glyphosate, personne de nulle part dans le monde vendrait des produits en France où il y aurait du glyphosate dedans, c'est tout. Voilà, c'est
OGM,
très, très clair.
Hein,
ou des OGM ou autres. C'est-à-dire que la loi européenne s'appliquerait sur tous les produits entrant en France. Voilà. Et puis alors, attendez, ça c'est la norme environnementale. Mais sur la norme sociale, eh bien ce sera au mieux disant social. Nous avons, nous, des contraintes sociales, et c'est tant mieux, des avantages, des conquis sociaux et pas des acquis, parce qu'on nous a montré que ce n'était pas des acquis. Des conquis sociaux. Eh bien, effectivement, les prix, nous, pour un protectionnisme solidaire, nous taxerions au mieux disant social, c'est-à-dire que des produits qui sont, voilà, je sais pas moi, des produits bio qui arrivent d'un champ de riz d'Éthiopie où des gens sont payés 11 euros le mois pour mettre en paquet du riz vendu par une multinationale chinoise et qui arrive en France sous le label bio, bah non, nous, là, effectivement, on va taxer. Parce que sinon, on aura toujours le même problème. De l'agneau néo-zélandais et de l'agneau ariégeois. Il y a un problème, vous comprenez ? Vous ne pouvez pas lutter contre une ferme de 10 000 ou de 20 000 agneaux et une autre de 300 agneaux. Le prix de revient n'est pas du tout le même.
Oui.
Vous ne serez jamais concurrentiel. Et sur le vivant, le qualitatif n'admet pas la concurrence.
Et pour porter un petit peu crédit à vos propos, Michel Larive, j'ai acheté un gigot, moi, parce que je fais un peu comme tout le monde, à Pâques, j'achète un gigot qui m'a coûté 23 euros le kilo. Et puis je suis allé voir au rayon où il y avait l'agneau néo-zélandais juste pour voir.
Ouais.
Il était à 8,50.
Il est à 8,50. Ouais. Il est congelé, il est tout prêt, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Hein.
Non, il n'était pas congelé.
Il n'était pas congelé. Parce que maintenant, il arrive même congelé.
Oui, justement. Alors, il arrive frais.
Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, là est le véritable problème. Si on veut intéresser les gens, il faut parler de leurs problèmes effectifs dans la vie de tous les jours. Et pour l'agriculteur, lui, c'est son revenu. Et donc, nous, quand on dit protectionnisme solidaire, il entend. Lui, on lui impose des choses, on lui impose des normes, on lui impose même des normes administratives. Eh bien, écoutez, ceux qui n'ont pas les mêmes normes, les prix doivent être réajustés par rapport à ces normes-là. Voilà. Sur des normes environnementales
et
sociales.
Ça, c'est l'Europe qui doit jouer.
Mais bien sûr, c'est l'Europe sociale. Il faut arrêter le dumping social.
Et
il n'y a pas que là. Hein. Le dumping social, ça pète aussi, ça casse, excusez-moi, toutes les industries en Europe. Le fait d'avoir des employés avec des charges sociales qui sont trois fois moindres que celles qu'on a en France, basées sur un pourcentage d'un salaire qui est deux fois moindre, effectivement, vous devenez compétitif. Alors, effectivement, il y a des grands groupes industriels français qui produisent maintenant en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie, parce que c'est un dumping social et économique qui est mis en place à l'intérieur de l'Europe. Ça, il faut l'arrêter. Si on ne le veut pas d'ailleurs, il faut l'arrêter à l'intérieur.
Sujet parmi d'autres qui seront sans doute abordés, Michel Larive, pendant cette réunion publique de la France Insoumise avec vous-même, hein, qui êtes sur la liste de Manon Bry, Mathilde Igné et Christophe Bex, qui tous les deux sont députés. Mathilde Igné, moins connue par ici parce qu'elle vient de d'Ille-et-Vilaine, mais elle est connue médiatiquement. C'est une ancienne ouvrière agricole qui siège désormais donc au Palais Bourbon avec le groupe Insoumis. Réunion publique qui aura lieu donc ce vendredi, ce soir, à partir de 19h. C'est à la salle Jean Jaurès de la mairie de Foix. Et réunion publique, bien évidemment, ouverte à toutes et tous, même ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites. Mais c'est ça la politique.
Et hein, c'est ça le truc, et c'est pour échanger. Vous voyez, bah, ce matin, l'un de vos confrères disait, mais ça, on ne le savait pas, c'est du bon sens. Il trouvait nos propositions, des propositions de bon sens. Je leur dis, mais c'est tout ce qu'on fait, nous. On fait juste des propositions de bon sens.
Oui. Proposition de bon sens et discussion sur les sujets donc qui touchent à ces élections européennes qui se tiendront le 9, un seul tour, hein, je le rappelle, le 9
juin
prochain. Je rappelle à toute fin utile, on a fait un reportage dessus, Michel Larive, on va le faire, le travail civique que l'État ne fait pas forcément, que si vous voulez donner procuration, parce que c'est un week-end de presse qu'été et les procurations c'est important, ça va devenir beaucoup plus facile si vous avez la nouvelle carte d'identité. Vous pouvez valider une identité numérique, on peut le faire à la mairie de Pamiers, et à partir de là, donner procuration sans plus avoir à passer par la gendarmerie, ce qui peut alléger et peut-être vous inciter à faire ce petit geste supplémentaire plus facilement.
Merci pour cette information.
Fait,
c'est très
Merci
bien,
beaucoup.
C'est ce qu'il faut faire.
À très bientôt, Michel Larive.
Merci à vous.